Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nainard Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en latin en 1516, l'Utopie de Thomas More est à la fois un récit de voyage imaginaire, un dialogue philosophique et une enquête sur la meilleure organisation politique. L'ouvrage met en scène Raphaël Itlaudet, marin qui affirme avoir découvert une île dont les institutions diffèrent radicalement de celles d'Europe. La première partie examine les désordres de l'Angleterre et de la chrétienté du début du XVIe siècle, misère, criminalité, guerre, concentration des richesses et impuissance de lois sévères. La seconde décrit les règles de l'utopie, communauté qui limite la propriété privée, valorise le travail partagé, encadre le pouvoir et admet une pluralité de cultes. More ne fournit pas un programme politique simple à appliquer. Par le contraste, le paradoxe et une fiction volontairement ambiguë, il oblige plutôt le lecteur à mesurer les injustices que les habitudes rendent ordinaires. Ce texte fondateur a donné son nom au genre utopique, tout en conservant une force critique et une complexité qui empêchent toute lecture purement idéaliste. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la fiction insulaire comme instrument de critique politique, le choix d'une île lointaine permet à More de déplacer le regard sur les institutions européennes. Raphaël Itlaudet ne présente pas seulement une curiosité exotique, son récit sert de point de comparaison pour révéler ce que les contemporains acceptent sans examen. Dans la première partie, la discussion aborde notamment les peines appliquées au vol, la pauvreté et les effets sociaux de la transformation des terres agricoles en pâturage. Le problème central est politique, une société qui crée la misère puis punit durement ceux qui tentent de survivre confond justice et répression. La distance fictionnelle protège aussi le texte contre une affirmation doctrinale trop directe. More peut faire parler un voyageur, rapporter des institutions surprenantes et laisser subsister le doute sur leur valeur exacte. Cette construction explique pourquoi le livre ne se réduit ni à une satire d'Angleterre ni à un plan de cité parfaite. La description de l'utopie est un test intellectuel. Elle demande quelles pratiques reposent sur la raison, lesquelles servent des intérêts particuliers et lesquelles persistent uniquement parce qu'elles sont anciennes. Le procédé du voyage imaginaire associe donc plaisir narratif, prudence politique et examen moral. Il inaugure une manière durable de penser la réforme sociale par un monde possible plutôt que par un sermon abstrait. Deuxièmement, propriété commune, travail organisé et critique de la richesse, le trait le plus célèbre de Utopie est abolition de la propriété individuelle et de l'argent. More relie ce choix à un diagnostic précis, lorsque les biens essentiels sont accaparés, les institutions tendent à protéger les privilégiés plutôt que le bien commun. Les utopiens organisent la production, répartissent les tâches et assurent une subsistance commune. Tous apprennent un métier, tandis que le travail agricole fait partie de la formation civique. La journée de travail est limitée, car une organisation collective vise à supprimer les activités improductives et le luxe ostentatoire qui mobilise tant de ressources dans les sociétés inégalitaires. Cette économie ne célèbre pas la pauvreté pour elle-même. Elle cherche à rendre possible le loisir studieux, la santé et une vie sociale moins dépendante de la rivalité matérielle. More montre également que la valeur attribuée aux métaux précieux est conventionnelle en utopie. Or et argent perdent leur prestige parce qu'ils ne satisfont aucun besoin supérieur. Toutefois, le modèle implique une forte discipline collective, une réglementation des déplacements et une uniformité des modes de vie. Sa portée est donc double. Il critique avec vigueur les effets de la cupidité et de l'exclusion, mais invite aussi à examiner le prix humain de toute égalité imposé par des règles très étendues. Troisièmement, gouverner pour le bien commun plutôt que pour la gloire des princes, la première partie oppose deux conceptions du conseil politique. Une position soutient que les hommes instruits doivent servir les souverains afin de corriger leurs décisions de l'intérieur. Raphaël Itlaudet répond que les cours sont souvent dominés par la flatterie, les ambitions militaires et la recherche de prestige, de sorte que les avis raisonnables y deviennent inutiles ou dangereux. Cette controverse donne au livre une portée qui dépasse la seule description de l'utopie. More interroge les conditions réelles de la réforme, une idée juste suffit, elle, si les institutions récompensent ceux qui refusent de entendre. Sur île, les charges publiques sont organisées selon des procédures électives et des assemblées, tandis que les décisions majeures ne doivent pas être préparées dans le secret. Le pouvoir reste encadré par une culture civique qui condamne la recherche de domination personnelle. La guerre est considérée comme un mal à éviter, même si Utopie ne se présente pas comme entièrement pacifique et conserve des moyens de défense. Cette nuance est essentielle. More ne décrit pas une humanité spontanément vertueuse, mais un ordre destiné à réduire les incitations à la conquête, à la corruption et arbitraire. Le livre met ainsi en relation institutions, intérêts et mœurs. Un bon gouvernement ne dépend pas seulement de bons dirigeants, mais de règles qui rendent le bien commun plus important que la vanité des puissants. Quatrièmement, raison, plaisir et pluralité religieuse dans une société réglée. La vie utopienne repose sur une conception morale où la raison doit guider les désirs vers le bonheur partagé. Les habitants ne rejettent pas le plaisir, mais distinguent les satisfactions durables, liées à la santé, au savoir et aux relations humaines, des prestiges factices produits par la richesse ou la domination. Cette morale permet à Mort de critiquer les apparences sociales sans prêcher un ascétisme uniforme. La place accordée à instruction est également décisive, le temps libéré par une meilleure organisation du travail doit favoriser études et discussions. Car une communauté juste exige des citoyens capables de juger. Sur le plan religieux, Utopie admet plusieurs croyances et refuse en principe la contrainte dans les conversions. Cette tolérance est remarquable dans le contexte des conflits confessionnels naissants, même si elle connaît des limites, puisque certaines positions sont considérées comme incompatibles avec ordre civique. Le texte ne défend donc pas une liberté moderne sans condition. Il lie la diversité des cultes à la paix publique, à la modération et à une reconnaissance de la fragilité du jugement humain. La tension demeure entre ouverture spirituelle et forte régulation sociale. Elle rend le livre plus intéressant qu'une simple image de paradis terrestre. La raison peut favoriser la coexistence. Mais elle peut aussi devenir le langage de normes collectives qui surveillent étroitement les conduites individuelles. En dernier lieu, une œuvre volontairement ambiguë entre idéal social et mise en garde. Lire l'Utopie comme un projet que Mort approuverait sans réserve ferait perdre une part essentielle de son ironie. Le nom même de Hill joue sur idée de lieu qui existe et de lieu impossible, tandis que le narrateur et Raphaël Itlaudé ne coïncident pas pleinement dans leur jugement. Le texte accumule ainsi des signes qui empêchent une conclusion définitive. Plusieurs institutions utopiennes paraissent répondre avec intelligence aux mots européens sécurité matérielle, limitation du luxe, éducation, relative tolérance religieuse et méfiance envers la guerre. Mais autres éléments sont difficiles à célébrer, notamment existence de esclavage, le contrôle des déplacements, la place subordonnée de certaines pratiques individuelles et une forte pression en faveur de la conformité. Ces contradictions ne sont pas des défauts secondaires à effacer. Elles obligent le lecteur à distinguer une critique des injustices existantes de adhésion totale à une société alternative. Humaniste chrétien nourri de culture antique, Mort met en dialogue des références philosophiques, civiques et religieuses sans les fondre dans une doctrine transparente. La forme même du livre valorise la discussion et expérimentation intellectuelle. Son apport principal est moins de fournir une constitution prête à emploi que de montrer que toute institution peut être interrogée à partir de ses effets sur la dignité, la paix, la justice et la liberté. Cette ambiguïté explique la richesse persistante de son interprétation. En conclusion, l'Utopie convient aux lecteurs de philosophie politique, de littérature de la Renaissance, de pensée sociale et de histoire des idées. Elle intéressera aussi toute personne qui cherche à comprendre l'origine du mot « utopie » sans le réduire à une promesse naïve de perfection. Sa lecture apporte un exercice exigeant de comparaison les lois pénales, la propriété, le travail, la guerre. Le pouvoir et la religion apparaissent non comme des réalités naturelles, mais comme des choix institutionnels susceptibles de produire des effets très différents. Le lecteur y gagne des outils pour reconnaître la part de convention derrière des inégalités ou des valeurs souvent présentées comme inévitables. Ce qui distingue le livre de nombreux textes de réforme sociale est son refus de résoudre entièrement ses propres tensions. Là où un traité systématique cherche à établir une doctrine cohérente, Mort utilise dialogue, satire, récit de voyage et paradoxe. Il fait de une société imaginaire un miroir critique, mais il laisse visibles les contraintes et les zones inquiétantes de ce miroir. Cette méthode explique que le livre puisse nourrir des lectures opposées, sans cesser de provoquer une réflexion sérieuse. Il ne demande pas de copier Utopie. Il invite à discuter les conditions concrètes du bien commun, à évaluer les compromis entre égalité et liberté, et à mettre en question les institutions de son propre temps. Pour cette raison, il demeure un classique plus fécond que les simples visions de monde parfait, son idéal sert avant tout à rendre la réalité discutable. Si vous souhaitez soutenir Thomas More, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.